de Kabbalah.
Ve'olam tout bavou ve'choshech al pene teom. Tout, c'est l'exil de Babel. Beau, il s'agit de l'exil de la Perse, à l'époque de Mordechai. Ensuite, Rocher, c'est l'exil des Grecs. Les ténèbres correspondent donc à l'exil grec, et nous allons voir tout de suite pourquoi. Et enfin, Verouach, Théom, c'est l'abîme, il s'agit donc de l'exil de Rome. Et ensuite, il écrit Verouach Elohim, l'achet al-pene amaim, et l'esprit divin donc plané sur les eaux, il s'agit donc de Rucho Shel Mashiach, du souffle ou de l'esprit du Messie. Donc ce verset, qui correspond donc à la situation du monde ou la désolation de la création avant même la création, ou plutôt avant l'arrangement de la création, puisque le Rizal explique que avant la création du monde, il y a ce qu'on appelle le Olam HaTohu, un monde du chaos. En fait, ce monde du chaos, c'est pas seulement le chaos, c'est Tohu Bohu Choshech et Théom. Mais il n'y a pas seulement une situation donc de désolation chaotique dans l'espace, il y a aussi une situation qu'on appelle Tohu dans le temps. Le Rambam explique aussi bien le Tohu dans l'espace que le Tohu dans le temps correspondent en fait au même principe, à savoir avant le Tikkun. C'est la situation qui se présente à nous avant un monde donc du Tikkun, un monde arrangé, un monde réparé, un monde restauré. Et en fait, nos maîtres disent aussi, Vayomer Elohim Yehor, dans la Torah, dans le récit de la Genèse, lorsqu'il est rapporté, Vayomer Elohim Yehor, il s'agit aussi de Oro Shel Mashiach, de la lumière du Messie. Ou, d'après le Midrash, cinq fois le mot Or, pour signifier aussi les cinq Chamisha Chumshe Torah, les cinq livres de la Torah. Donc, il y a une situation de Tohu Bohu, et il y a une situation de Torah, ou d'arrangement, ou de Tikkun. Donc, en fait, d'après nos maîtres aussi, le Tohu va se prolonger jusqu'à matin de Torah. Parce que, en fait, il écrit, Vayere, Vayiboker, Yom HaShishit, dans le sixième jour, avec la création de l'homme, il écrit, voici un soir, voici un matin, le sixième jour, Yom HaShishi. Nos maîtres disent, pourquoi un article définit le sixième jour? En fait, pour signifier le sixième jour de Sivan, à savoir la Torah, le jour de la révélation sinaïtique. Donc, avant la révélation sinaïtique, en l'an 2400, on est encore dans le Tohu. Mais en fait, on voit dans Yirmiyahu, Ra'iti Ta'olam Tohu. Yirmiyahu, qui parle aussi de la désolation de l'exil, dit aussi, j'ai vu le monde Tohu. J'ai vu le monde qui était plongé dans le chaos. Donc, le chaos, c'est pas la situation seulement qui précède la création arrangée, la création metokenet, la création restaurée. Le Tohu correspond à une situation aussi dans le Zman, dans le temps, à savoir tout le temps qu'il n'y a pas une réparation, un monde metokan, un monde restauré, un monde donc avec le Messie. Il y a donc ce prolongement du Tohu. Cependant, dans le Tohu, il y a des définitions différentes. Tohu, c'est l'exil en général. Mais on voit que nos maîtres ont distingué entre le Tohu, le Bohu, le Rocher et le Théom, qui en fait signifie la même chose, c'est la désolation, c'est la détérioration. Mais pour les Grecs, il est rapporté le terme de Rocher, puisque Amar Rish Lakish, Rocher Shehu et Nehem Shel Israël. Dans ce Midrash, au nom de Rish Lakish, nous apprenons qu'il s'agit des Grecs parce qu'ils ont obscurci les yeux d'Israël. Nous allons voir les ténèbres des Grecs, nous allons parler des ténèbres et d'obscurité à la place donc du Logos, tel que nous l'apprenons aussi par nos maîtres. Puisqu'en fait, les Grecs veulent être ceux qui enseignent la logique, le Logos, la science, et nos maîtres ont vu plutôt une logique et plutôt une science, il y a un Rocher. Pourquoi? Pourtant, il est écrit « Yaf telokim yafet ». La beauté appartient à Yafet. Dieu a octroyé la beauté à Yafet. Yafet, c'est les Grecs. C'est un des descendants donc de Noé, un des enfants de Noé, Shem, Ham et Yafet, qui était donc l'ancêtre de tous les Grecs. Et la Torah précise, Yaft Elohim, Yafet. La beauté, l'esthétique, la forme appartient donc à Yafet. Elle était octroyée par Dieu lui-même. Il y a une discussion dans Masechet Bechorot. Quant à la philosophie et à la pensée grecque, bien sûr, il y a une grande confrontation parmi les maîtres, mais rares les maîtres qui ont accepté de se confronter directement avec les Grecs. On parlait bien sûr de la pensée grecque, mais très rare. Il y a la Torah, la Gemara dans Masechet Tamid parle de Chachmé à Negev. Les sages du sud ont rencontré Alexandre le Grand. Il y a une discussion entre Alexandre le Grand qui a posé 10 questions. La Gemara parle de 10 questions sur la création du monde, sur la vie, la mort. En fait, des questions sur l'existentialisme. Et seulement les sages du Negev qui ont accepté. Parmi eux, il y avait Rabbi Yehoshua ben Hanina. Et ce Rabbi Yehoshua ben Hanina, on le retrouve dans le traité Bechorot. Et voici donc la discussion. Le grec dit à Rabbi Yehoshua, qu'advient-il au sel s'il se décompose? Un sel qui se décompose, qu'est-ce qu'on va en faire? Au fait, bien sûr, il y avait dans cette question du grec une énigme et une allusion, bien sûr, au peuple d'Israël. Nous allons voir tout de suite pourquoi. En tout cas, bien sûr, Rabbi Yehoshua a compris tout de suite où il veut l'amener, le grec, et lui dit, un sel qui se décompose, eh bien, on n'a qu'à prendre le placenta d'une mule. Et on n'a qu'à déposer le placenta d'une mule sur le sel, et le sel va redécouvrir ses caractéristiques. Et le grec se moque, il dit, mais tu te moques de moi? La mule n'a pas de placenta. Et lui répond le Rabbi Yehoshua, et toi, est-ce que tu as vu un sel qui se décompose? Il n'y a pas de sel qui se décompose, comme il n'y a pas de placenta pour une mule. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils veulent nous enseigner par là? En fait, qu'est-ce qu'ils cachent? Cette agada, qu'est-ce qu'elle cache derrière? Le Ramchal explique dans un mamar, Chalom Daniel, concernant l'exil grec. En fait, il explique là-bas donc la vision de Daniel, la prophétie de Daniel, qui exprime donc ces quatre bêtes sauvages, ces quatre bêtes qui chacune correspond donc à un peuple. On voit donc que donc l'une des bêtes c'est la Grèce, c'est l'exil grec. Et le Ramchal de nous expliquer qu'en fait, Rabbi Yehoshua ben Hanina avait une idée bien précise. Pour lui, le judaïsme, c'est du sel. Même si le sel vous conserve, en tant que peuple juif, c'est vrai, c'est un atout extraordinaire, vous êtes tout le temps conservé. Mais un jour, ma foi, ce sel va se décomposer, il ne pourra plus vous conserver. Et le sel, d'ailleurs, vous sépare, c'est la rigueur. Il sépare tout le temps, quand d'ailleurs il sépare le sang de la viande. Donc, jusqu'à quand vous allez vous séparer? Jusqu'à quand vous allez rester tout seul? Jusqu'à quand ce sel va vous conserver? Vous pensez que le sel va vous conserver tout le temps? Alors, si les Grecs nous voient le judaïsme comme du sel, même s'il y a un aspect extraordinaire, celui de la conservation, cependant, eux apparemment, ont quelque chose de meilleur à nous proposer. À savoir, un arbre qui est fatigué, par exemple, et que les fruits commencent à vieillir, et ils ont difficulté à donner ils n'ont pas un bel aspect. Alors on fait une greffe. Une greffe, apparemment, ajoute quelque chose de nouveau à l'arbre. Et au fait, greffer et ajouter quelque chose de nouveau, mélanger un nouveau sang, donc pourrait permettre de faire quelque chose de nouveau, et peut-être de plus robuste. Effectivement, c'est ça la mule. La mule, elle, c'est le résultat du croisement entre l'âne et le cheval. Le cheval est robuste, il est puissant. L'âne est patient. Le cheval ne peut pas monter des grandes montagnes ni descendre des abîmes parce que c'est difficile pour lui. En fait, c'est difficile, non pas, il a la force qu'il faut, mais il n'est pas patient, il s'affole. Que sous shoteb amitrama, comme dit le verset, un cheval devient arrogant parce qu'il s'affole et avec toutes ses forces et il jette son chevalier. Il produit son chevalier. On voit donc l'âne, s'il a la patience pour monter les montagnes ou descendre des abîmes, cependant, il n'a pas assez de force, il se fatigue très vite. Alors, on va mélanger le cheval et l'âne, et on va obtenir quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'on va obtenir? La mule. Donc la mule, elle est robuste, elle est patiente, elle peut monter les montagnes. Mais il lui manque une seule chose, dit Rabbi Yehoshua. Il lui manque le placenta, elle n'a pas de progéniture. Vous proposez le mélange. Quel est votre tikkun à vous? Qu'est-ce que vous proposez? Votre tikkun du monde. C'est donc le mélange. Se mélanger et refaire quelque chose de nouveau. Mais dans ce mélange, s'il est extraordinaire, c'est une solution qui est éphémère. C'est pour tout de suite. C'est une belle solution, une bonne solution, mais pour tout de suite seulement. On a une mule, mais elle n'a pas de placenta. C'est une mule. Et donc, pour l'Agmara, dans Masechet Chagiga, lorsqu'il nous explique le verset Me'uvat le'achol itkon, Me'uvat, il s'agit donc de celui qui est distorsionné, celui qui est tordu, ne pourra pas être redressé. L'Agmara pose la question, qui est le tordu qui ne peut pas être redressé? Haba aleshet ish ve'olid menam amzer, celui qui a cohabité donc avec une femme mariée, qui a eu des relations donc illicites avec une femme mariée, et il a un enfant, un bâtard. Donc le bâtard, il n'y a pas de tikkun, il n'y a pas de possibilité de réparer. Rabbi Shimon ajoute, il s'agit aussi de Michel Amad ou Peresh, de celui qui a étudié le Beit HaMidrash, celui qui était dans les temples de la Torah, est sorti en dehors des temples de la Torah. Au fait, il s'agit, d'après le Rambam, des Grecs. Les Grecs, dit le verset, Yavtelokim Yafet, Ishkon Baoleshem. La beauté appartient à Yafet parce qu'il a habité les temples de Shem. Donc ils ont étudié la Torah, ils ont appris, ils ont puisé donc de la Torah, chez Baalpé, de la Torah orale et de nos maîtres. Donc ils ont puisé donc toute la sagesse d'Israël. Cependant, ils l'ont transplanté dans un autre territoire. Comme cette semence qu'on a implantée dans une autre, dans un endroit, dans un lieu qui est profane, qui est interdit. De même, les Grecs ont transporté la semence sacrée, qui est donc la sagesse d'Israël, et l'ont apportée dans une autre place, ils ont enfanté donc un mamzer, un bâtard. Et donc, il faut comprendre cette idée de croisement, de mélange, parce qu'au fait, ça, l'hellénisme est basé sur ce yeso, sur ce fondement, qui est donc le mélange. C'est pas seulement dans la sirène, où il y a le mélange, c'est dans, chez Icar, mais, et dans toute la mythologie grecque, il y a effectivement un mélange de deux éléments. Mais pour les Grecs, ce qui est important, c'est l'esthétique, c'est la forme. C'est pas important la vérité. Ce qui est important pour eux, c'est peut-être une vérité, mais qui reste quand même, par rapport à la sagesse d'Israël, une vérité superficielle. Elle peut paraître une vérité absolue, mais lorsqu'on la compare, et nous allons voir tout de suite pourquoi, à la vérité de la sagesse d'Israël, il s'agit au fait d'une vérité qui est relative et qui est uniquement selon une perception. D'ailleurs, certains philosophes ont écrit sur la phénoménologie de la perception et que tout ce qu'on peut saisir, c'est uniquement par rapport à nos sens. Le Rambam, dans un passage de Da'at Evunot, que vous allez étudier ici, nous parle du sod, du mystère de Etz HaChaim et Etz HaDa'at. Au chapitre 36, je pense. Dans ce chapitre, le Rambam explique qu'en vérité, il y avait non pas deux arbres que Dieu a proposés à l'homme, donc à l'humanité, mais il s'agit de deux voies différentes. Deux voies différentes. Il y a une voie qu'on appelle Etz HaDa'at, Tov Vara, l'arbre du savoir ou de la connaissance, du bien et du mal, et enfin l'arbre de la vie. En fait, il s'agit de l'éternité. Selon Da'at Evunot, il y a une voie qu'on appelle la voie de l'éternité et une autre voie qu'on appelle la voie de l'expérience. Parce qu'en fait, de quoi il s'agit? Tovara, c'est comprendre une chose par son contraire. C'est là, au fait, l'expérience humaine. L'homme ne veut pas accepter une certaine vérité. Il s'agit, bien sûr, de Dieu unique. La voie de Etz HaChaim, c'est s'attacher, c'est se soumettre au fait. Se soumettre directement à l'unique et recevoir de lui directement la sagesse, la Kabbalah. Recevoir, donc être réceptacle. Par contre, dans Etz HaDa'at, on ne veut pas être un objet dans l'histoire, on veut être un sujet. On veut choisir, on veut décider. C'est l'initiative personnelle, c'est la Yuzma. Et donc dans Etz HaDa'at, c'est toute l'humanité, mais Adam HaRishon nous a embarqué dans cette nouvelle voie. En fait, nouvelle, non. Il s'agit donc de quelque chose en même temps, au même moment où on lui propose aussi le Etz HaChaim. Mais apparemment, Etz HaDa'at, c'est la voie de l'expérience. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de cette voie où on ne veut pas accepter la chose seulement si on l'expérimente. Mais pour l'homme, s'il veut expérimenter, il faut qu'il sache qu'il ne peut comprendre une chose que de manière relative. Parce qu'il doit comparer. C'est ce qu'on appelle en hébreu « gzera shava », la comparaison. La comparaison, c'est une idée, un principe même, dans les fondements même de la casuistique, du pilpoul, de l'étude talmudique de Torah Shebaal Peh. Et que les Grecs ont aussi utilisé. ils ont aussi utilisé a fortiori, a priori, etc. Kal vachomer. Et tout ceci, bien sûr, procède directement de la Torah chez Béalpé. Mais en fait, Adam Arishon, lui, veut cette voie. Il désire la voie de Etz Hadaat. Sa connaissance est le résultat d'une expérience. Etz Hadaat, Tov Vara. Et dans le langage du Ramchal, Ena Or Nikar, Ela Bitoch HaHosher. C'est-à-dire que la lumière ne peut être saisie que par rapport aux ténèbres. On ne peut saisir la lumière, on peut comprendre la lumière que par rapport aux ténèbres. Une chose par son contraire. Tu veux cette voie, eh bien tu dois mourir. Pour nous, qu'est-ce que c'est la mort? C'est la cessation de la vie. Il n'y a pas de vie, c'est la non-vie. C'est quoi la vie? C'est pas la mort. Mais on ne sait pas qu'est-ce que c'est la mort. Non, et la vie non plus, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Donc notre vie, c'est au fait c'est fuir à la mort, mais sans comprendre qu'est-ce que c'est la vie. Je ne parle pas de celui qui accomplit les mitzvot, c'est celui qui désire s'attacher à Dieu, à s'unir à Kadosh Baruch Hu. Mais en général, la vie n'a pas de sens que par rapport à la mort. Imaginez que nous vivons l'éternité. Ça n'a pas de sens. Donc il y a un sens à la vie à partir du moment qu'il y a la mort. Le jour où tu vas suivre cette voie donc de l'expérimentation, alors tu ne peux rien saisir que par le contraire. En vérité, cette voie qu'on appelle Etz Hadaat, Tovara, le bien ne peut être saisi que par le mal c'est uniquement par rapport au bien, et on est donc dans la dualité. On est donc dans le relatif. C'est la voie de Etz Hadaat, c'est la voie que Adam Arishon a importé toute l'humanité. C'est-à-dire qu'il y a là quelque chose d'extraordinaire que Adam Arishon n'a pas apporté seulement le peuple d'Israël, mais toutes les âmes, tout ce qui a procédé de son âme, va vivre cette expérience, je dirais malheureuse, de 6000 ans pour atteindre la même vérité qu'il était préparé et disposé à recevoir déjà le vendredi soir. Donc le vendredi soir d'Adam Arishon, il est né vendredi, donc ce vendredi soir, il devait atteindre la vérité absolue de Dieu unique. Mais à la place d'atteindre cette vérité, rebelote, nous allons vivre le cycle de la semaine, donc du jour, de tous les jours, et jusqu'à 6000 ans. Donc, ce qu'on a refusé d'accepter le vendredi soir, on va le recevoir et l'accepter par l'expérimentation, par l'expérience de toutes les créatures, à la fin de 6000 ans. Et qu'est-ce qu'on va accepter, quoi? Gilou Yehudo, Enor Milevado, qu'il est unique. À savoir qu'il y a une cause unique de toute la création et une direction unique de toutes les volontés. Au fait, cette cause unique, les Grecs, comme d'ailleurs la science, refusent. Puisqu'au fait, quand on parle de logos, c'est un logos, c'est une science pour chaque chose. En zoologie, il y a un zoologos, et en biologie, il y a aussi un logos, et en chimie, il y a un logos, en psychologie, il y a aussi un logos. Et au fait, on veut comprendre chaque partie, on veut juste distinguer encore des matières et encore des matières. À savoir, on ne veut pas atteindre une théorie du tout. Quoique aujourd'hui, de plus en plus, il y a des chercheurs qui recherchent, n'est-ce pas, une théorie qui peut expliquer le tout. Mais pour le moment, on est très très loin de cette théorie. Il y a donc pour chaque matière. Donc il y a des phénomènes, il y a une perception humaine, et on essaie de définir, de trouver une solution, ou plutôt une définition, ce n'est pas une solution, une définition qui pourrait nous apaiser et qui pourrait nous donner une explication de ce phénomène. Une explication plausible jusqu'à preuve du contraire. C'est ça la science. C'est ça donc le logos et toute la science. Qu'est-ce que propose la Torah? En fait, ça c'est la voie de tous les hommes, c'est la voie de toutes les créatures. Et c'est comme ça qu'on a avancé pendant 6000 ans. Hen Chochma Yira. Le roi Salomon a dit, seule la sagesse, Hen Chochma, l'unique sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et nos maîtres expliquaient pourquoi Hen, que veut dire le mot Hen? On n'a qu'à dire Chochma Achat, une sagesse, ou la seule sagesse qui existe, c'est la crainte. Alors la Gemara nous dit, Masechet Shabbat, Hen Be'evanit Achat. Le mot Hen en grec, regardez, nos maîtres, ils ont pris le grec aussi. Hen, un, hen, 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 one. uno. Donc en grec, un hen veut dire un. Donc il s'agit de un. L'unique chokhma qui existe, c'est la crainte de Dieu. Au fait, parce qu'on parle de la chokhma, et si on parle de la chokhma, donc on doit parler des Grecs, parce qu'au fait, ils veulent être, eux, les ancêtres de la chokhma, les professeurs de la chokhma. Et dans ce cas-là, nous, on le répond que la seule chokhma qui existe, une chokhma qui mérite d'être recherchée, c'est la crainte de Dieu. En fait, le Ramchal rapporte ce verset dans le début du Mishnah Sharim pour nous dire que la crainte de Dieu, ce n'est pas quelque chose de simple. La mitas utratai, ce n'est pas une petite bagatelle, il s'agit donc d'approfondir, c'est une science. El chokhma yira. Le man ilmad lira et Hashem. Il y a lieu d'apprendre à craindre Dieu. Apprendre veut dire une connaissance. Ceci dit que la crainte de Dieu, ce n'est pas appréhender la présence, c'est rechercher la présence, saisir la présence. Ve'adata Hashem Elokecha. Vashivota Elevavecha. Que Hashem Elokim Bashim Maal Ve'alares Mitachat Enod. Tu dois répondre à ton cœur, dit le Ramchal dans le début de Da'at Emunot. Vashivota, répondre à ton cœur, ça veut dire des réponses plausibles. Des réponses qui vont satisfaire ton esprit. Que quoi? Que Dieu est unique aussi bien dans le ciel que sur la terre. Quand on parle de l'unique, il ne s'agit pas seulement de dire, bon, il y a Dieu dans le ciel. Non, sur la terre aussi. Tout ce qui se passe, tous les événements, toutes les créatures sont soumises à la même loi, à la même cause qu'on appelle Dieu. Et Dieu est le maître souverain de tout ce qui se passe. Là, il s'agit donc d'une très grande chorma, une grande sagesse. Il ne s'agit pas seulement de l'accepter. Bien sûr, il faut l'accepter. Mais il faut aussi, Vashevota et Levavecha. Il y a lieu d'approfondir le Yehoud, la direction divine, l'unité, la souveraineté de Dieu. Et ce que nous allons essayer un petit peu de comprendre ce soir, et c'est là, au fait, la voie qu'on appelle Etzarim. Parce qu'à la fin des jours, à la fin des temps, on va arriver à cette conclusion, que Enod Milibado, après avoir étudié et analysé tous les événements et toutes les sciences, alors nous allons comprendre, nous allons arriver par l'expérience, ce qu'on a refusé d'accepter par la foi. Ce qu'on a refusé d'accepter par la foi, donc Adam et Jean, ce qu'il a refusé d'accepter le sixième jour, donc son premier jour, eh bien, il va le recevoir, l'accepter le dernier jour. Il s'agit donc, ni plus ni moins, donc de Etz HaChaim. Nous allons essayer de comprendre que signifie, c'est quoi donc ce Etz HaChaim par rapport à Etz HaDaat, cette voie qu'on appelle la voie de l'unique. La voie donc de l'éternité. La voie de Etz HaDaat, et ceux qui vont le développer le plus, ce sont les Grecs. C'est la dialectique grecque. C'est uniquement un jeu de mots. C'est uniquement des mots. Et ce sont à partir des mots qu'on va, kiviyachol, définir, soi-disant, la définition d'une vérité. Ceci dit que, pour quelle raison le Etz HaDaat, donc le sechel, l'intellect humain, l'intellect rationnel, ne peut pas donner à l'homme ou ne pas offrir à l'homme la science de la vérité. Donc, ce qu'on appelle Chokhmat HaEmet, la sagesse de la vérité. Nous allons essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est le Etz HaChaim, et après nous allons voir, au fait, pour quelles raisons il est difficile, sinon impossible, que la science ne peut pas nous amener à la recherche de l'unique. Et comme dit le roi Salomon, Hen Chokhmat Yira. Ce qui peut amener à la vérité, c'est seulement la crainte. C'est venir avec la crainte de Dieu. Que ta recherche, que ton approche et que ta réflexion, elle commence avec la crainte de Dieu. Et que s'il n'y a pas cette crainte, alors tu vas distorsionner tout ton esprit, toutes les valeurs, et tu ne peux pas arriver à cette vérité absolue de Dieu unique. Etz HaChaim, cette voie qui est extraordinaire, cette voie qu'on appelle donc apparemment, elle demande, elle exige de l'homme une soumission, puisqu'au fait, l'homme doit accepter Dieu, puisqu'au fait, il y a un ordre, il faut qu'il accepte cet ordre, il se soumette à cet ordre, et à partir du moment qu'il se soumette à cet ordre, et comme disent nos maîtres, jusqu'à vendredi soir seulement. Parce que vendredi soir termine la temporalité. Parce que jusqu'à vendredi soir, il y a encore le temps du travail, de l'œuvre divine. Parce qu'après, on rentre dans le temps sacré, c'est déjà l'éternité. En vérité, d'après les maîtres de la Kabbalah, il n'était pas nécessaire de refaire le cycle de 6 jours. À savoir, rebolote, après samedi, on recommence dimanche. Et qu'après le samedi, il n'est pas écrit Vaere, Vae Boker, Yom HaShabbat. Voici un soir, voici un matin, le Shabbat. Le Shabbat n'était pas appelé à terminer. Donc, il ne devait pas terminer le Shabbat. Le Shabbat devait continuer, et ce qu'on appelle Olam Haba. Pour nous, le Shabbat qui ne termine pas, ce n'est pas maintenant. C'est Olam Shekulo Shabbat, un monde qui est entièrement Shabbat, qui ne termine pas. Il s'agit de à partir du 7e millénaire. Cependant, dans le temps que nous vivons, c'est uniquement Me'en Olam Haba. C'est un avant-goût du véritable Shabbat. C'est un avant-goût du temps qui ne termine pas. Du temps de l'adhésion, du temps sacré, du temps que uniquement le sacré domine et que toutes les créatures ne font que les notes Miziv Ashrina. Ils ne font que se délecter et profiter de la présence. Etzachaim, en vérité, c'était la Torah. La Torah que Dieu a donnée au peuple d'Israël le 6e jour. Ce 6e jour de la création devient le 6e jour de Matan Torah, le 6e jour de Sivan. Et ce jour, en donnant la Torah, le verset dit Harut ala luchot. Al tikra harut ala harut. Et Dieu a écrit les lois sur les tables, il a gravé les paroles sur les tables. Ne lis pas gravé, ne dis pas gravé, harut, avec un jeu de mots, les avdil comme les grecs, ken. Avec un jeu de mots, alors qu'est-ce qu'on explique ? Harut atikra harut et la harut, il s'agit de liberté. Dieu a donné la liberté. De quoi la liberté ? Liberté de la limite, de la mort. Harut mimal achamavet. À savoir, on devient libre maintenant. On n'est plus soumis à la mort. Avec les tables, si on avait reçu les tables de la loi, les premières tables, bien entendu, alors on était plus soumis aux lois de la nature. Veniflinu ani ve'amecha, comme a dit Moshe Rabbeinu. Alors on se distinguerait, on sera singularisé de toutes les créatures et nous allons vivre tout simplement l'éternité. Il n'y a pas d'hôpitaux chez le peuple d'Israël, pas besoin de nourriture. Au fait, si matecha lo balta, lecha lo batseka, etc. On ne connaît pas donc les vicissitudes du temps. Nous vivons l'éternité en étant dans ce monde et le monde. Et les créatures, les hommes apprennent d'Israël, Dieu directement d'Israël, parce que voilà, il y a un témoignage vivant de Dieu. Atem Edai, vous êtes mes témoins, vous êtes éternels, et ceux qui vous voient, alors voudraient devenir et être comme vous. Et tout cela parce que vous m'avez accepté sur le mont Sinaï. Donc aussi, on avait la possibilité, sur le mont Sinaï, en un seul jour, comme Adam Harishon. En un jour, jusqu'au vendredi soir, pour Adam Harishon, et pour nous, jusqu'à en fait, ce jour, c'était, il fallait finir une quarantaine de jours, comme la gestation, comme le hibou aussi, il y a une première période qu'on appelle Arbaim Yom, les 40 premiers jours, donc il fallait finir un cycle, et à la fin de ce cycle, on aurait reçu les premières tables de la loi, et de ce fait, Pascal, Zouamat, Zoumatam Shinahaj, la Zouama, l'empreinte du serpent, qui au fait l'envie de l'homme, Ta'avahoula Enaim, alors on l'aurait extirpé de nous complètement. Et donc dans ce cas-là, on ne vivrait plus les vicissitudes et les vicissitudes personnelles. On serait comme l'ange, Shimekabel et Tnatnoua Mina Shoresh, comme dit le Ramchal dans Dimorom, l'ange qui reçoit directement son mouvement et qui est conscient de recevoir sa vie. Et le mouvement de sa vie à partir donc de la racine, de la cause première. On serait conscient continuellement de la cause première. Et cette conscience nous aurait donné, légué l'éternité. On a perdu cette possibilité avec Adam Harishon, avec le Hatzadat, et aussi on a perdu avec le Egel Azav, avec le Vaudor. C'est-à-dire on n'a pas reçu les premières tables. Le Ramchal explique aussi d'après les Midrashim, sans rapporter que les premières tables ont une valeur beaucoup plus grande que les secondes. Entre autres, bien sûr, les premières tables auraient pu léguer au peuple d'Israël cette possibilité donc de l'éternité, où il n'y a plus d'envie, il n'y a plus donc d'initiative personnelle, il y a uniquement l'éternité. C'est vrai que l'initiative personnelle nous permet une certaine expérience, mais pour arriver à la même conclusion, Mais on fait le chemin, c'est nous-mêmes qui faisons le chemin pour arriver à ce qu'on appelle la première raison. La première raison d'être, donc, la volonté de Dieu. Ceci dit, que certains maîtres, le Ramchal aussi, vont légitimer cette idée de faire soi-même la route. À savoir ce que est rapporté dans le Midrash aussi, et dans le Balatania aussi, dans le début de Balatamnot aussi, Nahama de Kisufa, le pain de la honte. Parce qu'en fait, si on avait accepté l'éternité directement, et donc on n'a rien fait du tout, on n'a aucune expérience, et alors, eh bien, nous mettre à cela le pain de la honte. C'est comme un pauvre qui reçoit le pain. Et comme dit la Gemara, Baït istakul, il a honte de voir celui qui lui donne. Alors que s'il s'efforce d'atteindre le pain, donc c'est le hamal, c'est le fardeau, c'est le travail, c'est les 6 jours du travail, c'est les 6 millénaires aussi. Alors on méritera, kibiachol, ce bienfait qu'on appelle l'éternité, l'olam haba. Donc il y a 6 jours de travail, et le 7e jour, ou 6 millénaires, pour atteindre l'olam haba, le 7e millénaire. Ceci dit que, effectivement, maintenant c'est a posteriori. On peut dire, on peut donner cette idée, donc de ce qu'on appelle Nahama de Kisufa. Il y a Nahama de Kisufa, dit le Ramchal, dans des Morom, se plaint de la honte, seulement après la honte, après la faute, Vaït Boshashu. Après la faute, il est écrit dans le verset, ils ont eu honte. Et cette honte, au fait, maintenant il faut la réparer. Et on la répare par l'effort. Mais à l'époque, avant la faute, il n'y avait pas la honte. Donc aujourd'hui, on a plus de possibilités. Est-ce qu'on peut revenir à cette situation d'avant la faute? Le peuple d'Israël avait cette possibilité après avoir payé 210 ans d'exil. Et là, ils étaient disponibles à recevoir Dieu et donc ils ont payé l'effort. Ils sont restés croyants et fidèles après vent et marée, après toutes les plus grandes choses. La plus grande chose, c'était en Égypte. Et avec tout cela, ils sont restés fidèles à Dieu. Donc ça, ils méritent l'éternité. Ils ont fini le travail. Mais est-ce que les descendants aussi acceptent ceci, acceptent donc ces situations? Au fait, c'est ça le lien donc de Egel Azahav. Asselanu Elohim, fais-nous un Dieu. D'abord, ata imanu. On veut une parole de l'homme, pas l'écriture de Dieu, mais l'écriture de Moïse. Les secondes tables, il s'agit donc de l'écriture de Moïse. Et c'est ça la différence entre les premières tables des secondes tables. Moïse écrit sur 2 tables. Dieu écrit sur 1 table qui devient 2. Puisqu'il est écrit, d'après nos maîtres, là j'ai aussi le rapport, l'Ukhot, dans l'Ukhot Rishonot, il est écrit l'Ukhot sans vav. Comme l'Ukhot, 1 table, sa table. 1 table sans le vav, il n'y a pas de conjonction de coordination. Le vav, c'est le vav hibour qui relie. Mais là, il n'y a rien qui relie la droite et la gauche, le ciel et la terre. Parce que la première table parle du ciel. Anochi Hashem, je suis Dieu. Par contre, la seconde table parle des commandements ben Adam, les Havero, entre un homme et son ami. Il s'agit de l'otirtsah, ne tue pas, ne vole pas, ne convoite pas, ne sois pas un faux témoin. Il s'agit donc ben Adam, la Havero, les lois sociales. Il n'y a pas de différence entre le ciel et la terre. Mais avec Moïse, il va y avoir une différence entre le ciel et la terre. L'homme, étant dans ce monde, a besoin de cette dialectique. Il a besoin de cette casuistique. Il a besoin de cette comparaison. Il a besoin de cette gzera shava. Enaor nika elamitocha hosher. Nous ne pouvons comprendre la lumière que par les ténèbres. On peut comprendre le Namaba que par les 6 jours. Atorer berev shabbat, yochal be shabbat. Il faut s'efforcer, il faut travailler, il faut planter, il faut semer pour récolter, on nous dit. Okay? C'est vrai, il faut travailler. Alors, c'est le monde des mitzvot, c'est le hall, et après là-bas on récolte, c'est l'olam haba. Donc, cette idée, ce dualisme, en fait, n'existait pas chez Adam Rishon. Adam Rishon, lui, n'avait pas besoin donc de l'idée du travail, l'idée donc de l'effort, de Bezeat Apecha. À la seule enfant, tu mangeras le pain. Tout était prêt, tout était disponible. Et maintenant, l'homme, c'est vrai qu'il ne veut pas être un objet dans l'histoire. Il veut suer. Et il n'y a pas de pluie, et bien il ne veut pas accepter cette situation qu'il n'y ait pas de pluie. Il faut amener la pluie. Tu es malade. Il faut que cette situation que tu es malade. Il faut chercher la guérison. Alors en fait, qu'est-ce que nous offre le Nahash? Le Nahash nous dit, écoute, si tu connais la nature, tu vas devenir comme Dieu. Tu vas être le maître de cette nature. Tu vas dominer la nature. La connaissance, elle va t'amener à la souveraineté. Et c'est là l'erreur du Nahash. Parce que le Nahash pense, Adam pense, que le fait d'atteindre le maximum de la connaissance, alors on va être souverain. Vi'etem ke'elohim. Vous serez comme Elohim. À savoir, souverain, le pouvoir absolu. On se rend compte, bien sûr, avec les plus grandes recherches en médecine, en sciences, etc., qu'on est fragile encore, qu'il y a une certaine légèreté de l'être, et qu'il est impossible de dominer la matière. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent, et qu'on ne comprend pas, même pour les plus grands des scientifiques. Et là, pour terminer, avec un passage de Adiab Amaron, sur le Rambam, de nous expliquer la différence qu'il y a réellement entre la première Torah, à savoir la Torah des premières tables et la Torah des secondes tables, et nous allons voir qu'au fait, la Torah des secondes tables, c'est une réponse pour les Grecs, une réponse aussi pour notre savoir à nous, et pour notre Yetzahara. Et la Torah d'Ibra, et la Kenegeda Yetzahara. La Torah a parlé à ce Yetzahara. Mais dans les secondes tables, dans les premières tables, elle parle de l'absolu, elle parle de la voie unique. Et d'ailleurs, le maître de dire que maintenant que tu as cassé les tables de la loi, Dieu dit à Moshe Rabbeinu, Yishar Kohacha, félicitations. C'est quoi félicitations? Maintenant, il y aura Talmud Bavli, Talmud Yerushalmi, il y aura Psikta, il y aura Ilcheta, Agata, Sifri, Sivra et Sifri. En d'autres termes, il y aura une grande Torah. Au début, il n'y avait qu'une seule Torah. Ma Torah à moi. Maintenant, il y a la Torah des maîtres, la Torah d'Israël, la loi orale. Chacun va parler de Torah maintenant. Chacun va dire sa Torah. À savoir, il y a une loi, il y a une transmission, et chacun va dire qu'est-ce qu'il pense. En fait, on nous a donné ce genre de démocratie. Nous allons décider la halakha. Et jusqu'à ce que nos maîtres vont dire « Torah le bashamaimi ». La Torah ne se trouve pas dans le ciel. Il s'agit de cette Torah de la loi. De la halakha, de la psika, de la décision. En d'autres termes, nos maîtres disent que, à partir des secondes tables, il va y avoir maintenant toute la Torah orale. La psikta, le sifré, le sifra, tout, sur tous les domaines, sur tous les sujets, il y a discussion. On va éclaircir chaque loi, chaque parole. Et donc, en fait, il n'y a plus une acceptation. Chaque chose va être traitée. Et pourquoi et pour qui? Ceci dit que, au fait, on a fait le tikkun de Etz Hadaat. Avec la Torah orale, nos maîtres vont faire la réparation de Etz Hadaat. Mais ils ont occulté, apparemment, le Etz Hachaim, jusqu'à Rabbi Shimon Bar Yochai. Jusqu'à Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Akiva, au fait, tous les maîtres connaissaient cette grande sagesse qu'on appelle la voie unique, le Etz Hachaim. Mais c'est seulement Rabbi Shimon qui va organiser une école et surtout un enseignement. Alors que tous les maîtres du Talmud connaissaient bien sûr cette voie de la sagesse. Mais seul Rabbi Shimon a fait une hydra, une assemblée. Une assemblée et qui va organiser cette grande chokhma qu'on appelle le mystère du Ein Sof, de l'infini, le mystère de Dieu, la création du monde, le but de la création, etc. Donc, il y a, en vérité, dans la Torah, deux aspects. Un aspect qui est ésotérique, un aspect qui est caché, et ce qu'on appelle la Kabbalah, et un aspect qui est dévoilé, exotérique, qui est dévoilé. Et c'est ce que nos maîtres, ou plutôt nos patriarches, nos ancêtres, ont voulu seulement recevoir dans Matan Torah. D'ailleurs, il est écrit que ce jour de Matan Torah, le jour, le Sissivan même, ils ont dormi. Ils ont dormi pendant la nuit. Et le Lord expliquait que dans la Hydra que lui a dévoilée à ses Talmidim, que cet enseignement de la Hydra, donc du Zohar, l'enseignement donc ésotérique d'Israël, en fait vient réparer ce sommeil du peuple juif le soir de Shavuot. C'est la raison pour laquelle on ne dort pas le soir de Shavuot, pour réparer cette faute du sommeil de la nuit. cette réparation des ténèbres, Emunatecha Balelot, la foi pendant la nuit, pendant les ténèbres de Yavan, les ténèbres des Grecs. Pendant ces ténèbres des Grecs, comment nous allons nous confronter? Avec quoi nous allons conserver notre foi? Emunatecha Balelot, cette Emuna pendant cette longue nuit, Yaakov aussi l'a supportée. C'est Vaivater Yaakov Lebado, ces disputes de Yaakov avec l'ange pendant toute la nuit, Adam Zachara, jusqu'à la révélation du Messie. Donc même si on a reçu la Torah, au fait, on a reçu partiellement la Torah. Grâce à Moshe Rabbeinu, alors on a reçu une Torah en attendant le dévoilement de l'intériorité de la Torah par le Mashiach. Mais avant le Mashiach, il y a eu Rabbi Shimon Bar Yochai, et le Arizal, et le Ramchal, et tous les Gdolim de la Kabbalah qui ont dévoilé cette intériorité. Au fait, cette voie qu'on appelle la voie du Etzraïm. Parce qu'au fait, il s'agit, bien sûr, de deux aspects bien distincts dans la Torah. Au fait, ils correspondent à une seule voie, mais il y a deux aspects. Et je m'explique. Beaucoup de maîtres, et tout celui qui lit la Torah, peut voir dans la Torah deux éléments. L'un, je parle au niveau du dévoilé, hein, pas au niveau du caché, deux aspects au niveau même du dévoilé, à savoir de quoi parle la Torah. Elle nous parle apparemment de certaines histoires, des événements qui s'est passé à Adam Rishon, Caïn, Evel, Noach, ensuite Abraham, etc. Mais en fait, qu'est-ce que veulent bien nous raconter ces histoires? Bien sûr, il ne s'agit pas d'un livre d'histoire, Chas v'Shalom, il s'agit d'une morale, d'une certaine éthique, de comment se comporter. Mais il y a aussi dans la Torah un autre aspect, celui des commandements, des mitzvot. Donc apparemment la Torah est composée et d'histoires pour nous apprendre une certaine morale, la morale d'Israël, et les commandements de Dieu, de comment se soumettre à sa volonté. Aussi dans les commandements, on peut voir une certaine éthique. Le Rambam rapporte, Maïmonide rapporte, ce que nos maîtres disent, que « En amitzot nitnu, et là les tsare baim et abriot » Les mitzvot n'ont été donnés, les commandements n'ont été donnés que pour préparer, arranger les créatures, astiquer les tsaref, comme on astique d'ailleurs une pièce d'argent pour lui retirer ses scories, retirer les saletés, alors on astique. Alors les mitzvot sont là pour nous astiquer. Au fait, dit le Rambam, « Ma'echpat lakam lochum shitshrat milat sabar o mina oref » Qu'est-ce qu'il y en a à faire, Dieu, que tu abattes la bête, que tu égorges la bête par sa gorge ou tu l'abats par la nuque? Si tu manges kasher, eh bien c'est pour toi que tu le fais. Si tu manges taref, eh bien tu es comme cette bête. Ce que veut dire le Rambam, c'est qu'en fait la Torah, les commandements n'apportent rien du tout à Dieu. Les commandements, c'est pour l'homme. Le Ramban Nachmanide s'oppose à cette explication dans Parashat Ki Tetzé, dans tout l'union de Kantzipor, du nid d'oiseau. Il dit qu'en vérité, le Rambam a raison. C'est nos maîtres qui disent que mais là, il s'agit d'une approche anthropocentrique, une approche de l'homme, une approche où l'homme est au centre du problème. À savoir, je veux la Torah de manière rationnelle, humaine. Alors, on veut bien cette Torah qui nous dit ne convoite pas. On veut cette Torah ne vole pas, ne sois pas un faux témoin, ne mens pas. Et ça arrange tout le monde, parce que tout le monde veut une société convenable. Et tout le monde recherche cette Torah. Maïmonide s'est cassé la tête pour nous expliquer tous les mitzvot, toute la Torah sous cet angle humain, rationnel, dans le Moré Nebuchim. Parfois il a réussi, et parfois il n'a pas réussi. Le Ramban attaquait souvent Maïmonide selon ses idées. En fait, le Ramban, il faut comprendre, il s'adresse aux Nebuchim, aux égarés, aux philosophes. Et il veut leur apprendre qu'ils peuvent venir aussi. Hanoch Nahar, les feux d'Arco, éduque l'enfant, éduque l'homme, selon son éducation, selon sa voix. Et donc, Maïmonide a présenté ce projet de la Torah sous cet angle qu'on appelle anthropocentrique, l'homme au centre. Mais une autre approche, dit le Ramban, une approche théocentrique, Dieu au centre. Comment comprendre la Torah par rapport à Dieu? En fait, toute la Torah parle de Dieu. Le Ramban nous dit, quoi la Torah? Shemotav, Shemakabuchu. Toute la Torah, ce sont des noms de Dieu. Ce sont Korach, Lavan, Yitzhak Avenu, Lavdil, Ken, etc. Tout cela correspond à des noms divins. Et quand on dit des noms divins, ce sont des actes de Dieu. Parce que tous ces personnages et tous ces commandements dans la Torah ne sont là que pour exprimer une seule vérité. L'unicité. Le Yihud. Dieu unique. Donc la Torah, En fait, dans toutes ces mitzvot, dans tous ces angles, on peut la voir selon les secondes tables de la loi, et donc cette Torah rationnelle qui viachol, ce logos, cette logique, mais bien sûr les avdil, mais kodesh l'echol, pas comme les Grecs, mais il s'agit de répondre aux Grecs. Pour chaque action, toute chose qu'on faisait, regardez dans le Talmud, parfois on peut nous rapporter des exemples très très concrets, je dirais même au niveau de la science, et que le scientifique le plus sophistiqué aimera donc ces raisonnements tels qu'ils émanent dans le Talmud. Cependant, il faut savoir que la Torah aussi vient nous parler de quelque chose de très profond, à savoir de Dieu. Parce que le but de la Torah, c'est cette révélation de Dieu. Mais est-ce que je veux la recevoir directement, ou bien non, par mon expérience? Et c'est cela la différence. Est-ce que je vais selon la voie de Etz Hadaat, ou dans Etz Hachaim? Et le Rambam d'expliquer, lorsque le peuple d'Israël a dit, sous le Har Sinaï, lorsque le peuple d'Israël a dit, ils ont dit, loyadanu, car ce Moïse, on ne sait pas qu'est-ce qu'il devient. Miklalav atashomehen, en disant, on ne sait pas, ils ont montré qu'ils veulent savoir. À savoir, ils veulent comprendre. Au fait, c'est ça le shor, c'est ça le egelazav. Yada shor, konehu. Le bœuf, le taureau, connaît son maître. Donc, le Egel Azahav, ce vaudor, au fait, il procède de quelque part. C'est sûr que c'est une avodah zara. Mais même la forme la plus baissée, la forme la plus concrète dans ce monde, elle a une origine. Le Midrash nous dit, ils ont vu la Merkava pendant Matan Torah. Pendant la révélation sinaïtique, ils ont vu le chariot divin. Mais Shamtu Pene Hashor, ils ont laissé tomber un côté du chariot divin. Le chariot divin correspond donc au message que Dieu veut révéler à toute l'humanité. Et il y a quatre aspects qui correspondent à quatre animaux, aux trois animaux et l'homme. Un, le côté gauche correspond au chor. Le chor, le bœuf ou le taureau, c'est le dat. C'est descendre, s'approfondir. C'est renverser la terre. À savoir, c'est dépouiller. Dépouiller la matière. Et là, c'est l'idée qu'on ferme donc le shor. Shamtu pene shor. Au fait, ils veulent cette voie, mais ils n'ont pas intégré cette voie qu'on appelle le shor. Ils n'ont pas intégré au céleste. Et donc, ils l'ont déconnecté. La déconnecter, c'est la voie d'Azara. Ils l'ont séparé. En la séparant, alors, il y a cette idée donc d'un bœuf qui est séparé. Or, l'or qui veut dire la rigueur, qui veut dire rouge, qui veut dire c'est la nature même du bœuf qui procède donc du din, comme vous le savez, donc de la loi, de la nature. Ceci dit que le tikkun de ce Egel Azahav, c'est la Torah. La Torah chez Béalpé. La Torah chez Béalpé, c'est cette réparation de cette voie que les Grecs, d'autre part, ont entreprise. Pour terminer, la voie de Etz Hachaim, c'est une autre voie. C'est la voie qui n'utilise pas la perception à partir des roshim, des sens. L'Ambra l'expliquait dans ce Mahamar, Chalom Daniel, à la fin donc, de la Dibur Barom, il explique un verset du roi Salomon, que Hevel Havalim, Hakol Hevel. Le roi Salomon a dit, vanité des vanités, tout est vanité. Mes maîtres disent, sur quoi Moshe Rabbeinu, Shlomo HaMelech, le roi Salomon a dit vanité des vanités. À quoi il fait allusion avec ce terme de vanité? Bien sûr, il ne s'agit pas des choses de ce monde, de la beauté où il a déjà dit, Sheker Achen et Velayofi. Il ne s'agit pas non plus du chocolat, de la nourriture pour nous dire vanité des vanités. On n'a pas besoin du roi Salomon pour le dire. Il s'agit des sciences. Vanité des vanités, ce sont les sept sciences. La sagesse du roi Salomon a dépassé tous les maîtres de l'Orient, les Chinois de l'époque. les Chinois, à cette époque aussi. La sagesse était chez eux. Chez les hindous, au Tibet et en Chine, il y avait la grande sagesse dans le monde. Mais le roi Salomon, tous venaient, et même ces gens-là venaient apprendre chez lui. Tous les hommes de la planète venaient apprendre chez lui. Et le roi Salomon est arrivé à la conclusion. Quelle conclusion ? Révèle la vanité. Vanité des vanités. On ne comprend pas. C'est pas vanité. D'ailleurs, on sait que le Maharal, il a un petit peu élevé l'idée, donc presque sacralisé la science. Rochma bagoim ta'amin, Torah bagoim al ta'amin. La science chez la nation, elle existe. Il y a une science chez les goïm, ils ont la science. Rochma bagoim ta'amin. Parce que dans le verset, dans Echa, dans l'alimentation, est écrit Torah bagoim en. Le prophète a dit, il n'y a pas de Torah chez les goïm. Chez les nations, il n'y a pas de Torah. Mais par contre, Torah, il n'y en a pas. Mais la science, il y en a. Le Rambam nous dit, en vérité, qu'est-ce que c'est la science? La science, mille décrivés. Ce que dit la Gemara dans Masechet Bechorot, ce sont des paroles de mensonge. Comment des paroles de mensonge? Tout est relatif, vous allez dire. Je m'explique. Il s'agit, au fait, de la perception, de ce phénomène qu'on appelle la perception. Comment on perçoit les choses? Donc on comprend par rapport à nos sens, ce que j'expliquais tout à l'heure, les choshim. Les choshim que Dieu a donné à l'homme, au fait, c'est ce qui permet de transférer, de transmettre à l'âme, à l'intellect aussi, une information. Et à partir de ces informations, il va décider quelque chose. Par rapport à ce que je vois, ce que j'entends, je ressens, je décide, j'agis. Le Rambam explique qu'en vérité, c'est ce qu'on appelle la domination du Keli. Dans la Kabbalah, il y a un concept de avant la création du monde. Avant que Dieu ne crée le monde, il a créé les principes de la création, qu'on appelle les Sphirot. Les Sphirot sont les principes même qui vont faire toute la création du monde. Et ces principes sont composés de deux éléments. Un, c'est le Keli. On va l'appeler pour le moment le réceptacle, ou l'instrument, c'est mieux, l'instrument, le keli, et un autre, le or, la lumière. Donc il y a l'essence divine, la lumière, et il y a le keli, le réceptacle. Au fait, à un moment donné, nous dit le Arizal, il y a shvirat hakelim, la brisure des bases. Que signifie la brisure des bases? D'après le Rambam, il y a une explication d'après le Arizal simple que le Marhou Rabbi Hamital nous a légué, à savoir que les lumières étaient trop fortes pour les Kelim. Et donc les Kelim sont brisés. Et ce qu'on appelle Olam HaTohu, le monde de Tohu, il s'agit ni plus ni moins de la situation d'avant la création. Ce qu'on appelle tout à l'heure la désolation, le chaos. Ou dans le Midrash, beaucoup plus simplement, Kutcha Bechou Boré Olamot, ou Mahrivan, Dieu a créé le monde, ou les mondes, et il les a détruits. Au fait, il ne les a pas créés, il y a une création effectivement, mais très vite, et une bombe, et ils ne s'entendent pas, et une brisure. Au fait, cette explosion, c'est seulement un résultat de ce qui s'est passé bien avant, qu'on appelle, d'après le Rambam, le Or, le Nichnas Lakeli. Le Or n'est même pas entré dans le Keli. Le haut, d'après le Rambam, la lumière, ma'as, il a répugné, donc, le Keli. Et il ne veut pas entrer, parce que le Keli a voulu prendre une autonomie. Bon, on parle dans une symbolique, et je vais expliquer. Le Keli, lui, c'est le principe même de ce que va être l'existence. Mais maintenant, si la lumière, elle est dans le Keli, continuellement, eh bien, il n'y a pas d'autonomie. Il n'y a pas de possibilité de création ex nihilo, ou une création séparée de Dieu. La création serait Dieu lui-même. Donc d'après le Rambam, cette situation qu'on appelle le O mistalek minakeli, la lumière qui se sépare du Keli, donc une situation du Keli tout seul, l'existence toute seule, c'est donner la possibilité à l'autonomie de la création. Et que sans cela, elle ne peut être séparée. C'est ça l'origine du mal. Parce que le mal, c'est la séparation seulement. Le bien, c'est l'adhésion. Kirvat Elohim, Litov, la proximité de Dieu, c'est le bien. Au fait, le rapprochement vers la cause première, c'est ça le tikkun. On a été créé, on a coupé le cordon ombilical, c'est bien. Il faut le couper. Pour être séparé, pour être une créature séparée. Et ne pas recevoir le mouvement continuellement. Mais il faut faire juste un seul mouvement. C'est celui du retour. Le Shabbat, c'est le retour. Donc en vérité, dans ma vie, on n'avait à faire qu'une seule chose. C'est après être créé, de revenir. Et là, non, il veut partir. Adam Arishon et Rizmano Beheto. Adam Arishon a prolongé le temps de toute la création par sa faute. Donc la faute, c'est le prolongement de cette séparation. C'est au fait aller selon son envie, aller selon son désir. Cependant, le tikkun, c'est le retour. Le Shabbat, c'est la tshuva. En d'autres termes, il y a dans cet enseignement qu'on appelle le Etz HaChaim, la possibilité à l'homme de revenir. Mais en vérité, les créatures, à la fin, elles doivent revenir, ce qui restera de toutes les créatures, de revenir à Dieu. Il n'a pas de choix. Après avoir reçu toute l'expérience de tous les hommes, on n'a plus de porte sortie. On va être obligé de revenir. Mais comme disent nos maîtres, « Yafa sha'achat kodem ». Il est préférable une heure avant la fin. De revenir une heure avant le déluge. Au moment du déluge, on voudrait tous y revenir. Mais qui va revenir? Qui peut revenir? Ceci dit que, à quoi donner la possibilité à l'homme? Mais en fait, il y a un potentiel de la faute. Il y a un potentiel de la séparation. Il y a un potentiel de la liberté. Il y a un potentiel de l'éloignement. C'est dans les kélim. Dans les kélim même, dans l'instrument même qu'on appelle l'existence du monde. La création. Dieu l'a séparé de lui. Il a séparé, donc il a retiré la lumière d'elle. C'est ça, d'après le Ramchal, Shfirat HaKelim. Ils sont brisés parce qu'il n'y a plus rien qui les anime. Mais tout le temps qui reste ce qu'on appelle le Rapach Nitzotzin, les étincelles, comme c'est, il y a encore une énergie qui reste. Parce que la lumière est partie, mais une petite énergie qui reste. Les étincelles de l'éternité et qui font que le monde continue à vivre. Donc il y a encore la batterie qui marche. Donc on n'a pas besoin de lui. Tout le temps que la batterie marche. Mais dès qu'on commence à s'affaiblir, alors il faut chercher des pompes, il faut chercher pas mal de choses pour animer cette créature, pour ne pas qu'elle meure. Mais si à un moment donné, on va voir que ni la vitamine C, ni les protéines, ni plus rien ne peut donner la vie, et que la véritable vie est Atam et Chayet Koulam, comme on dit tous les matins dans la tefila, c'est toi qui donnes la vie. Et donc on comprend que celui qui anime et celui qui donne cette énergie pour tous, alors dans ce cas-là, on va revenir à lui. Mais tout le temps qu'on ne l'a pas saisi, ou plutôt qu'on n'est pas conscient, parce que le Rambam explique que cette lumière continue à faire vivre toute l'existence, mais avec un malbouche. Et ce malbouche, on appelle les lois de la nature, Elohim. Elohim, ou les lois de la nature, sont une enveloppe de la lumière divine, de l'essence divine. Ceci dit que Akhenrou continue à animer toutes les créatures, continue à animer toutes les lois, mais là on voit que les lois. Et c'est ça, ce qu'on appelle le Hevel. Le Hevel veut dire vanité, mais qui veut dire beaucoup plus profond que vanité. Cela signifie que c'est la perception, ce qu'on voit c'est la loi. Et c'est ça qui permet la subsistance, et ce qui permet l'existence. En vérité, pour terminer cette fois-ci, il y a Or et Keli. Ce Or et Keli, c'est quoi? Or, c'est Yud Ke Vav Ke. C'est le nom divin du nombre de 26. Nous savons, d'après le Arizal, que toute la création a été créée par ce qu'on appelle Orot Hasag, les lumières de 63, de la valeur numérique 63. Que signifie Sag 63? C'est lumière qui sort des yeux. Il y a des lumières qui sortent des oreilles. En fait, c'est encore une fois, c'est de la symbolique, ils vont prendre ça à la lettre. Il y a ces lumières qui sortent des yeux de Dieu et qui permettent donc la perception de l'homme, donc la vision. Ces lumières sont du nombre de 63, dans leur valeur numérique qui correspond donc à 63, Sag. Le Rambam explique qu'il se compose en deux, Hevel et Havaya. Hevel, c'est 37. 37 et 26. Il s'agit, au fait, de deux noms ou de deux principes, l'essence et l'existence. Pour les Grecs, l'existence précède l'essence. Ce monde est plus important. L'essence, elle vient après. Et pour eux, ce qui compte, c'est l'esthétique. il y a une réalité qu'on appelle l'existence. Et Dieu vient après. Mais ça, il y a aussi une divinité. Mais c'est de la Bodhazara. Asenu Elohim, fais-nous un Dieu. On veut un Dieu. Donc on est là et on veut un Dieu. C'est le Egel Azav. À savoir, on veut soumettre le principe de la divinité, donc de l'intériorité, à nos sens, à nous. C'est ça l'exil grec. Baruch Hanle Olam. Amen, Amen.